Salut à tous, bienvenue dans Electric Troubles Radio Show en ce mercredi soir. Devait être prévu une interview aujourd'hui, go public, ça devait être avec Salim au téléphone, petit souci de son côté, donc c'est repoussé au 21 de ce mois. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, nous l'aurons au téléphone pour parler de ce superbe disque de punk rock qui est sorti. Mais donc du coup aujourd'hui j'ai calé une autre interview que j'avais l'intention de faire, donc ça tombait bien. Pierre-Johan Suc, donc de la côte là-bas en bas, sera tout à l'heure au téléphone pour This Will Destroy Your Ears. Je vous rappelle que ce groupe était déjà passé dans Electric Troubles Radio Show, mais ils ont sorti un nouveau disque, donc il était temps de s'y intéresser. C'est sorti le 18 novembre, je crois, enfin en tout cas ça a été mis en ligne à ce moment-là, donc sur Bandcamp, c'est ce que j'ai vu. Voilà, ça sort sur À temps rêvé du roi et un autre label, Rocklife, c'est ça, peut-être Record, je ne sais plus exactement le nom. Enfin voilà, donc on en parlera tout à l'heure. On va commencer l'émission par un groupe qui était passé aussi, me semble-t-il, dans Electric Troubles en interview, je crois bien, oui. Walter's Carabine, pardon. Formation d'Île-de-France avec Devil's Door, c'est extrait d'un disque de 2018. Voilà, on n'avait pas écouté ça à ce moment-là, on est arrivé un petit peu plus tard. Voilà, j'avais découvert ça, je crois, via un contact, vous savez, ces espèces d'invitations à découvrir des groupes qu'il y a sur Facebook, je crois, tout simplement. Donc j'avais été faire un petit tour. Ce que j'ai refait d'ailleurs récemment, là, en écoutant une quarantaine de groupes différents et en repérant deux ou trois qui m'intéressaient. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Et il faut faire aussi des démarches personnelles, même quand on vous apporte des informations toutes faites. Il faut aussi aller débroussailler le terrain. Voilà, on s'écoute Walter's Carabine. On se retrouve juste après. Je vous rappelle quand même que la semaine prochaine, samedi 17 décembre, il y aura la librairie Caractère Pete Sampras, donc Pierre, anciennement Burning Heads, qui fait partie de Monde de Merde, tatoueur, bricoleur, etc. Enfin, un personnage incontournable de la scène qui a fait du punk rock et qui continue à en faire, mais il en a fait dans les Burning pendant plus de 30 ans. Donc voilà, on l'aura au téléphone, il sera à Caractère et il y aura d'ailleurs le même soir le début de l'exposition Show Show le Disco. Donc Show, je vous rappelle, C-H-A-U-D et Show S-H-O. W, le disco, ça c'est la thématique des illustrations du fanzine Kavzi qui est toujours disponible. Voilà, que vous avez au Café Musique, vous aurez donc forcément la librairie Caractère, que vous aurez aussi forcément en conséquence sur les dates de Pete Sampras, puisque je vais lui enfiler quelques-uns, et que vous avez au Vinyle Café. Voilà, je vous rappelle que les compilations Bandcamp sont toujours disponibles, surtout n'hésitez pas. Écoutez, téléchargez s'il faut, propagez la bonne nouvelle, voilà, sans vous, on n'est rien, tout simplement. On s'écoute Walter's Carabine, parce que je parle, mais bon, faut bien écouter de la musique, c'est parti.
Yeah.
Voilà donc un premier morceau dans Electric Troubles. À l'instant, Walter Scarabin, formation d'Île-de-France. Nous sommes donc avec notre interviewé du jour. Il s'agit du groupe This Will Destroy Your Ears, donc formation du sud un petit peu plus bas que chez nous. Notre intervenant va se présenter tout simplement, comme ça on saura de quoi il en retourne. Bien le bonjour.
Allez, bonjour. Comment allez-vous ?
Oh, muy bien, muy bien. C'est comme ça qu'on dit encore plus au sud.
C'est ça, exactement, encore plus au sud que chez nous.
Voilà.
Moi, je suis Pierre-Johan, du coup, et je suis le chanteur et guitariste de This Will Destroy Your Ears. Mm-hmm. Et effectivement, nous sommes dans le sud du département, du côté de... entre Angres, Osegor, Cabreton, Seignos, tout ce territoire-là, quoi. Mm-hmm.
Alors, je voudrais que, avant qu'on se passe un premier morceau, donc extrait de ce nouveau disque, que tu me représentes tes deux acolytes de groupe et redire un peu s'ils étaient dans d'autres groupes avant, s'ils sont dans d'autres formations aujourd'hui.
Ouais. Voilà. Alors, du coup, on est trois, c'est donc un power trio, comme on dit. Il y a Magali à la batterie, mmh. Et avant, Tabassé et Fus sur. Sur Parpaing 2.2, mmh. Groupe qui n'existe plus. Et nous avons Quentin à la basse, qui lui vient à la base de Toulouse, et qui a eu moult projets sur la côte ou à Toulouse. Mmh. Et d'ailleurs pas qu'à la basse. Je crois qu'il a été à la guitare, son dernier, il me semble. Voilà. Et moi j'avais un projet avant, qui s'appelait Trichini, mmh. où j'étais au clavier et au chant, et qui était aussi du sud de l'Orne.
D'accord. Alors on va se passer un premier morceau, donc extrait de Everybody Knows Mickey, donc c'est le titre du disque. Le titre de la chanson, c'est Modern is Already Old. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce morceau juste avant qu'on l'écoute, si tu as des particularités à dire?
En fait, ça vient donc moderne, c'est déjà vieux. Mmh. C'est un blog de La Féline, qui est une artiste française de chansons françaises, mmh. voilà, qui tient un blog et qui est hyper intéressant sur la musique. Elle est sociologue aussi, elle travaille beaucoup sur les questions justement de la musique. Et donc elle a un blog qui s'appelle Moderne, c'est déjà vieux. Et cette phrase m'a toujours enchanté, mmh. interrogé. Donc du coup voilà, il y avait un texte qui traînait autour de du fait que par exemple les ados d'aujourd'hui trouvent que Facebook c'est pour les vieux, que la préhistoire ça commence dans les années 80, mm. que voilà, et en même temps c'est pas si loin que ça, enfin il y a une espèce d'accélération comme ça du temps, mm. Qui a commencé depuis pas mal d'années, mais j'ai l'impression que c'est exponentiel quoi, c'est, mm. ça va de plus en plus vite. Et parfois c'est pas inintéressant et parfois on passe à côté de plein de choses parce que justement ça va trop vite. Mmh. Voilà, donc c'était tout, sur tous ces questionnements là quoi.
D'accord. Eh bien on va s'écouter ce morceau et puis on se retrouve juste après. Modern is already old. C'est parti.
Watch.
Voilà, c'était donc le premier morceau de This Will Destroy Your Ears. Alors, en 2019, si je ne m'abuse, était sorti Clear, précédent disque. J'aimerais que tu me fasses un retour sur ce disque. Avec le recul, quel accueil penses-tu qu'il a eu en peu de temps, hein, puisque 5 mois après, c'était le premier confinement. Est-ce qu'il vous a ouvert des portes ou pas? Et si tu peux me dire les forces et faiblesses de cet album, si on a toujours, avec le recul, une petite idée, des fois.
Ouais. En fait, ça a été vraiment... c'est un album qu'on a construit très très vite, puisqu'on a commencé à jouer ensemble fin 2017, quelque chose comme ça. Et directement, on a eu un mini-set de 5-6 chansons, qui sont toutes à Surclear. On a pu en rajouter une ou deux, quelque chose comme ça. Donc tout a été... C'est vraiment les premiers jets d'un trio qui se découvre aussi. En même temps, ça allait très vite entre nous. C'était très agréable. Et ça nous a permis de partir en Angleterre très rapidement. Notre première tournée, on l'a faite là-bas, en fait. On l'a pas du tout faite en France. Parce qu'on avait aussi ce son anglais qu'il fallait qu'on éprouve. On trouvait plus intéressant d'aller l'éprouver directement au cœur du poulet. Ça pouvait tenir la route. Donc Lear, il a été vraiment construit très vite, quoi. Et même dans l'enregistrement, on a enregistré ça en une semaine, sans tellement de re-re. Il y a eu une espèce d'immédiateté qui était voulue, un truc un peu brut, comme ça. Et effectivement, il est sorti en 2019, quelques mois avant la pandémie. Une semaine avant le premier confinement, on a connu le premier confinement, on était en concert à Rennes. Le soir même, à minuit, tout fermé. Et on était en pleine tournée, et on venait d'avoir les vinyles, et on venait de vendre les premiers exemplaires en tournée. Donc c'était hyper frustrant d'avoir enfin cette chose-là, même si on avait tourné avec ces chansons-là depuis un an et demi, 2 ans. Et de pas pouvoir l'exploiter, pouvoir le partager en plus sur une île, quoi. Donc ça, c'était un peu compliqué. En même temps, on était en train d'écrire de nouvelles chansons, puisque ça faisait 2 ans qu'on avait celle-là, donc on était aussi en création. Et ça nous a permis aussi cette période qu'on a tous vécu des 2 ans là, de se poser et de penser plus à la prod du deuxième, ce qui était quand même pas mal. Donc ça, c'était cool, et puis de savoir vraiment avec qui on voulait l'enregistrer, dans quelles conditions, enfin toutes ces questions là donc on a vraiment eu le temps de le faire, donc ça, c'est, je crois que ça se sent sur le disque, et puis c'était un autre travail très intéressant. Après il y a toujours une frustration de ce premier album qui a eu une vie assez... Enfin, il est toujours là, mais il a eu une sortie un peu chaotique, quoi.
D'accord. Et ça vous a ouvert des portes, alors, ou pas?
L'Angleterre nous a ouvert pas mal de portes. Après, le vinyle en lui-même, j'arrive jamais à déterminer si la sortie physique d'un album ou de musique... aide à développer le projet, quoi.
D'accord.
J'ai l'impression que pour nous, c'est plus le live qui a développé le projet, même si il y a quand même une part de la musique enregistrée qui fonctionne, les gens les achètent et sont contents de les écouter. Enfin, voilà. Mais je crois que le premier développement du groupe, ça a été beaucoup en live.
D'accord. Aujourd'hui, dans le groupe, quand on se retrouve pour discuter, on branche quoi sur sa platine? Ça a peut-être évolué, j'imagine, au fur et à mesure de votre courte vie de groupe. Est-ce que vous êtes toujours... Ouais, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, d'ailleurs?
Alors, on l'a jamais trop été, musicalement. Enfin, si, on l'est, mais on a des goûts très, très différents, en fait. Mais on aime bien découvrir plein de trucs. Voilà. On n'est absolument pas cantonné à un style qui serait notre style de prédilection. Il y a des familles, bien sûr, qu'on aime plus que d'autres. Mais je sais qu'on a ça en commun tous les trois, que quand on arrive dans un lieu où ça joue de la musique, si ça ressemble à une jam ou que ça joue très bien, mais qu'on l'a déjà entendu, on va rester au bar. Et si jamais il y a un truc qui nous gratte l'oreille ou qui a l'air un peu neuf, même si c'est mal joué, même si c'est bancal, machin, on va toujours avoir une... Ah, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment cette espèce de nouveauté qu'on peut réinventer à chaque fois, même si on réinvente pas les choses, on les réinterprète et compagnie, mais et après on est effectivement sur des esthétiques différentes. Magali vient plutôt de la techno, elle adore le disco, mais elle aime bien la noise aussi. Moi j'aime beaucoup la noise et Sonic Youth et les années 90. Quentin est plus hardcore. Donc on se fait découvrir des trucs, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout le temps d'accord, et puis d'autres où ça fait plus consensus, quoi.
D'accord. Alors, est sorti donc Everybody Knows Mickey. Quel sens donner à ce titre énigmatique ? Voilà, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
En fait, c'était. Ça nous amusait parce que, il y a. Mickey, donc, c'est le personnage qu'il y a sur la pochette du vinyle, mais c'est aussi le Mickey qu'on connaît tous. Donc, celui-là, on le connaît vraiment tous. Et en fait, la photo de la couverture venait d'un photographe qui s'appelle Ian Graham, qui est un photographe anglais qu'on a rencontré sur une tournée de Idols, et qui est sourd. Donc on a commencé à déconner avec lui sur le fait que nous on s'appelait Destroy Your Ears, et c'est un gars adorable, donc on a très vite sympathisé. Et un jour on tombe sur cette photo, je crois que c'était sur son Instagram, et du coup on se demandait, il n'était pas là, et on s'est tout de suite demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette photo ? On voyait bien que c'était pris en France, parce que le tableau derrière était écrit en français. On ne savait pas que faisait ce stripteaser avec cette mamie sur le côté, morte de rire. C'était quoi le cadre de cette photo ? On avait plein de questions sur ça. Et il est venu nous enregistrer, nous prendre en photo quand on a enregistré justement l'album, auquel on n'avait pas encore trouvé de nom. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette photo et qui est ce gars sur la photo ? Et sa réponse a été « Everybody knows Mickey ». Alors on s'est dit « Oh putain, c'est un génial, ok, ça c'est le nom de l'album ». Mais après, dis-nous qui c'est. Et en fait, c'est une figure très connue de la nuit du sud de l'Angleterre. Il était à Brighton et il a été Chip and Dale, le Toy Boy, la version Chip and Dale d'Angleterre. Il a été prof de gym, il a été dans la Navy, il a été maçon, il a joué Rocky dans The Rocky Horror Picture Show. Il a une espèce de vie complètement folle. Du coup, on l'a invité aussi sur la release qu'on a organisée chez nous dans les Landes, pour que tout le monde puisse se connaître aussi Mickey. Donc voilà, c'est devenu presque un jeu après. Et en plus, il est très drôle et très sympa. Donc,
D'accord. Quand vous êtes lancé dans ce nouveau disque, vous aviez des envies au départ, des objectifs, des idées précises ?
Non, oui et non, on était vraiment sur ce truc de prendre le temps pour ne pas être frustré comme sur le premier, où on avait fait tout très brut, très live, et où on se disait « Ah, on aurait pu faire un heureux, là, vachement intéressant de ça ». Voilà, et en même temps, de pas dénaturer totalement le projet en faisant une prod genre de malade avec Phil Spector, 15 000 violons derrière ou machin. Donc il y avait ce truc, on savait qu'on voulait d'abord enregistrer live, mais se garder du temps pour pouvoir faire de la prod en direct, de doubler les guitares, pas juste avec le son qu'on avait, mais c'est-à-dire, ok, on écoute le titre, brut, on est enregistré, on se garde une prise où on aime l'énergie. Et maintenant, on essaie de travailler un peu des sons. Est-ce qu'on réenregistre une guitare ? Ok, on peut la peaufiner, on peut... des choses comme ça. Donc il y a eu un mix entre les deux. Et puis ça, de ne pas se perdre, de ne pas refaire le premier et de ne pas peut pas faire une version symphonique de nous-mêmes. Quoi.
D'accord. Alors, il a été enregistré dans le même lieu, par contre, pas avec les mêmes personnes, il me semble.
Ouais, ouais, exactement.
Alors, c'est qui, du coup, cette fois ?
Le premier a été enregistré donc chez Parpin, hein, qui est notre studio qu'on a aussi construit nous-mêmes, qui fait partie de Container, qui est un lieu plus grand, qui est un tiers-lieu dans le en Grèce. Le premier a été enregistré par Dorian, qui est l'ancien clavier ou le clavier de JC Satan, et avec qui on travaille au son. Donc c'était la personne qui nous connaissait le mieux. En plus, on a des musicalement, enfin, on a des goûts qui sont pareils, des sensibilités qui sont les mêmes. Et puis on avait besoin d'un œil extérieur et en même temps de quelqu'un en qui on avait confiance, qui était bienveillant, tout ça. C'était exactement le cas de Dorian, donc c'était parfait. Et ensuite on avait envoyé le mix à Wayne Adams, qui avait enregistré notre premier deux titres quand on est parti en Angleterre, les UK Sessions, et qui avait très bien capté ce son qu'on voulait à la fois très anglais et que lui parfois trouve so French quoi. Après, parce que il a eu beaucoup de mal à placer ma guitare, par exemple, qui a un son un peu étrange et qui est sur plusieurs amplis à la fois. Chose qui est un peu, parce que les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques que nous, donc voilà, ça sonne droit comme ça. Et voilà. Donc ça c'était le premier. Et puis pour le deuxième, on voulait enregistrer avec Alex Grease, qu'on avait rencontré sur l'île et qui a fait les albums de Eddie Lungs, il a fait Walking Men's Club, je ne sais plus si je le dis bien, enfin, il a des albums qu'on avait vraiment beaucoup aimés dans la prod. Il devait venir chez Parpin en France, sauf que avec le Covid, voilà, ça a été annulé au dernier moment. On avait quand même la période, et puis nous, on se sentait bien, c'était la bonne période pour enregistrer, donc on s'est dit qu'il ne fallait pas non plus trop retarder la chose. Donc on a demandé à Henri d'Armancourt, qui est le guitariste-chanteur de Choufiti, avec qui on a beaucoup tourné. C'est un groupe de Paris qu'on aime beaucoup, qui fait partie de ces groupes français les mieux gardés de l'indé, voilà, qui sont des groupes absolument géniaux et qui ont pas la notoriété de leur génie, on va dire, et qui travaille aussi, qui est très technique, il y en a un ingénieur qui peut être très très technique, il travaille pour la Blogothèque, il a fait du mix pour plein de gens, et on est sur la même longueur d'onde, et on savait que ça allait certainement matcher avec l'univers de Alex. Voilà, donc après c'était un peu frustrant aussi pour l'un et pour l'autre, parce que je pense que Alex aurait voulu enregistrer quelques trucs, et que Henri, il était obligé de se contenter que de l'enregistrement, il n'allait pas mixer le produit fini. Mais ça a été une équipe qui a bien fonctionné au final, donc c'était cool.
D'accord. Est-ce que vos envies de départ ont été un peu chamboulées, là, je ne sais pas, au fur et à mesure des enregistrements, ou finalement, est-ce que le rendu final correspond à tout ce que vous aviez prévu?
Il y a toujours... On est tous les trois assez jamais assez contents, jamais assez de temps, jamais assez de... Voilà. En même temps, c'est normal, c'est la création, quoi. Donc je pense que si on nous donnait pas de deadline, ou si on ne donnait pas de deadline, on enregistrerait tout le temps, on referait des prévisions, on referait des... Donc il y a toujours une frustration comme ça, mais ça, je pense que c'est quasiment tous les musiciens. Après, on s'était justement pas... on n'avait rien prévu vraiment. On avait fait des pré-prod pour une fois, donc c'était plutôt cool, où on savait à peu près vers quoi on voulait aller. Mais ce qui était très bien avec Henri, c'est qu'on a fait de la presque du pré-mix pour pouvoir envoyer des choses à Alex qui étaient cohérentes. Donc on a pu tester vraiment sur Horspiel, par exemple, qui ouvre l'album. Il y a cette boucle que je crée avec une pédale. Qui n'est pas du tout un clavier que je crée avec la guitare, en fait, c'est une pédale qui bug. Donc elle crée une espèce de boucle infinie, voilà, qui est très forte dans l'ampli. D'ailleurs, on a été obligé de gérer techniquement le truc. Et elle était très belle dans la salle, mais on n'arrivait pas à la faire ressortir comme ça, en l'enregistrant, que ce soit avec une DI, avec un micro. Donc du coup, on s'est dit, ok, on va l'enregistrer sur une cassette, on va la repasser par un lecteur cassette, et on va voir comment... Et de fil en aiguille, comme ça, on a réussi à trouver le son qui correspondait à ce qu'on avait dans les oreilles. Donc tout est venu un peu au fur et à mesure, comme ça, on avait des idées qu'on arrivait à mettre en place, et puis certaines où Henri nous disait « Non mais là, c'est une idée que vous avez dans la tête, mais c'est infaisable. C'est pas possible. Pas possible de... Moi, il y a un truc que je voulais... Enfin, c'était genre un concert de Sono, quoi. Mm. De riff où on ressent, enfin, qu'il n'y a que du sub, de machin. Il disait « Mais ça n'existe pas en enregistrement. Tu ne peux pas. Tu peux pas avoir du sub comme ça. Pas autant que tu veux. Voilà. Mm. Mais je veux persister. C'est un énorme. Je le veux lourd. Et voilà. Et on n'y arrive pas. C'est normal. Mais on a envie d'y arriver, quoi. »
Ok, on va s'écouter donc ce deuxième morceau que tu viens de citer, Horse Pill, qui donc inaugure le disque, tu as dit. Et voilà, on se l'écoute. Tu as quelque chose à faire, un commentaire à faire sur celui-là, hors ce que tu viens de dire?
Non, sauf que c'est sur l'adolescence et qu'on adore les ados.
Ah, génial. Ok, allez, on se l'écoute, c'est parti. Deuxième morceau, donc extrait du disque de This Will Destroy Your Ears. Donc, je vous rappelle le titre de l'album, Everybody Knows Mickey. Et là, c'était Horspiel. Tu peux me parler des autres textes, de leur contenu, voilà, parce que là, bon, on en a fait deux jusqu'à maintenant.
Bah, on est, enfin, alors là, c'est moi qui écris. Je me fais quand même aider par deux très bons potes. Cal, qui est un Anglais, qui est le chanteur de Nagual, sachez-le. Mmh. Et un autre pote français, qui a aussi eu une vie de chanteur en Angleterre. Donc c'est... parfois, je veux être sûr que mon anglais soit un vrai anglais, pas un anglais chanté par un français. Il y a des termes qu'on utilise en France ou des expressions qui n'existent pas en Angleterre ou qu'on utilise différemment. Donc c'est cette chose-là un peu technique. Et après, j'aime bien croquer les tranches de vie de ce qui se passe autour de nous, et qui me paraissent absurdes ou intéressantes ou assez belles ou des choses comme ça. Ce qui est drôle, c'est que au départ, quand on écrit les chansons, on laisse tourner. Alors là, ça peut être un riff de batterie, de basse, de guitare, peu importe, on apporte tous une idée à un moment donné. On lui laisse, on a une espèce de règle, on lui laisse au moins une demi-heure de vie avant de dire, de décider que vraiment on l'abandonne, quoi qu'il arrive, même si on tourne autour et qu'on sent que ça va pas démarrer. Hein. Et très rapidement, il y a quelques mots qui viennent, ou des phrases en anglais, que j'essaie de choper, de noter. Et souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, ça devient le thème ou le fil que je déroule avec le texte.
D'accord.
Et après, bah voilà, ça parle d'adolescence, de des gens pendant le Covid qui étaient complètement obnubilés par cette chose-là et complètement à l'intérieur, que ce soit. Voilà, on a tous des gens qui étaient des pros absolus des vaccins, des pros absolus de je sais pas quoi, tout le monde se prend au jeu, enfin, c'est très très émotionnel comme ça, comme période. Voilà, sur après, il y en a une qui s'appelle I Want to Write a Good Song, donc, je veux écrire une bonne chanson, qui était les mots qui sont sortis pendant le refrain. Et les couplets sont simplement une liste de toutes les chansons qu'on aurait voulu écrire. Voilà, ou alors Cutie, qui est simplement le fait que Quentin a sorti une ligne à la guitare que je trouvais très belle, mais sur laquelle on n'a jamais réussi à mettre une basse, une batterie, enfin, nous paraissait. Donc on l'a gardé telle qu'elle. Les paroles sont simplement moi en train de lui dire qu'il y a trop de notes dans sa mélodie,
oui.
Et que moi il y a pas assez de mots dans mes paroles, quoi.
Ah oui.
Et ça se répète juste comme ça. Donc on aime bien jouer avec ce qui se passe, avec voilà, c'est pas souvent très très gai, c'est un peu désabusé, quoi. C'est peut-être notre côté 80s, post-punk machin, enfin, je sais pas comment les gens l'appellent comme ça. Il y a plein de dénominations comme ça qu'on invente selon les styles, quoi.
Ok. On a parlé du visuel du disque tout à l'heure. Tu peux me parler d'équipes qui s'en occupent?
La plupart du temps, c'est nous en interne.
Ouais.
Parce que du coup, on est à côté de ça, technicien du spectacle, chorégraphe, vidéaste. On fait beaucoup de choses à côté. Donc la plupart du temps c'est nous qui réalisons, et parfois on se fait aider par Lula Production, qui est une boîte de prod, qui sont des amis du sud des Landes aussi, qui sont installés vers chez nous, qui sont très très bons, qui sont plus techniques que nous, ils ont une vraie boîte de prod, quoi, donc ils ont des caméras plus intéressantes, ils ont des Ronin, c'est des espèces de Steadicam pour les petites caméras qui fonctionnent très très bien. Ils travaillent beaucoup plus vite que nous parce que c'est leur métier. Et c'est des musiciens aussi. Ils ont bon goût. Donc souvent quand quand on sent qu'on a filmé des choses, mais que sur le montage, on va pas s'en sortir parce que ça va être compliqué de faire des choix parce qu'on est sur l'image, par exemple. Mmh. Bah, on demande à Lula de monter et de faire des choix parce que nous, on sera pas assez objectif sur ces choses-là. Et parfois, on leur demande même quand c'est trop compliqué techniquement ou qu'on a envie de pas tout faire tout le temps, on leur demande d'en réaliser quelques-uns. Mmh. Donc en gros, voilà, ça se joue entre Disco Destroy Warriors et Lula Production.
D'accord. Autre chose, donc je vois que c'est sorti cette fois sur À temps rêvé du roi, le disque, et Brutalist ouais. Records. Tu peux m'expliquer comment ça s'est fait, parce que ce n'était pas le cas sur le précédent.
Ouais, en fait, on a rencontré les gens de Brutalist Records sur notre précédente tournée en Angleterre. Mmh. Ils sont installés à Portsmouth. Et eux nous ont proposé tout simplement de participer à la production du prochain si on envisageait d'en faire un prochain.
D'accord.
Très simplement. Et ils ont distribué une version anglaise de Clear, donc le premier album, qu'ils ont distribué directement en Angleterre après la sortie en France.
D'accord.
Sur un bundle un peu particulier avec une sérigraphie, il y avait des stickers à l'intérieur, des choses comme ça. Mmh. Et À temps rêvé du roi, en fait on se connaît depuis un moment avec Stéphane, qui est le patron de À temps rêvé du roi, parce qu'on est pas très loin. Moi je suis tardé à la base, et lui il est de Pau. On est de la même génération, on a été dans les mêmes lieux, on a des amis en commun, et c'est quelqu'un qui va voir des spectacles de danse, et c'est mon deuxième métier, je suis chorégraphe. Mmh. Donc voilà, donc on discute beaucoup d'art et puis de musique et puis même de danse parfois. Et je lui ai tout simplement envoyé la version non masterisée un peu du mix, les premières étapes du mix. Mmh. Et il m'a dit, bah je trouve ça très bien, je voudrais participer aussi au truc. Mmh. Bah, avec un grand plaisir, parce que c'est un label qu'on aime beaucoup. Et là, il y a aussi très très bon goût. Il y a des pépites absolues chez À temps rêvé du roi, dont plein de ces fameux groupes qui sont sous-évalués ou qui sont pas si connus que ça en France, quoi.
Mmh. Ok. Tu peux me dire pour terminer comment ça vit Parpaing, en fait, qu'est-ce que vous en faites, et où en est Cowboy à la mode?
Cowboy à la mode, donc c'est la partie production de tout ce projet qu'on nomme Container, Androphine Container, là, qui est le tiers-lieu, en fait. Cowboy à la mode produit des choses, donc c'est son activité principale, c'est quand même de produire les choses de Disco Destroy Your Ears et des choses annexes. Je m'occupe aussi, du coup, de trouver des tournées anglaises pour les Français et des tournées françaises pour les Anglais. On a un roster comme ça de quelques groupes qui devient un peu compliqué, je te l'avoue, avec le Brexit.
Ouais.
Il y a des questions notamment sur le merchandising, qui est considéré comme de l'importation de marchandises. Donc tu rentres avec, tu payes de la TVA, tu sors avec, tu payes de la TVA. Oui. Mmh. Il y a plein de... Voilà, il y a des choses comme ça qu'il va falloir gérer un petit peu entre les États, je pense. Et Parpaing est en fait le studio d'enregistrement et de répétition qui est sur le tiers-lieu, et il y a 5 ou 6 groupes, ça dépend, je crois qu'on est à 6 là en ce moment, qui répètent, qui se partagent le lieu, et on se garde les week-ends pour se faire des résidences ou des enregistrements. Voilà, donc après on a investi un peu dans des matériels d'enregistrement, donc ça c'est très cool. On n'est pas non plus un studio professionnel, qu'est-ce qu'on a dans le coin, qui serait un vrai studio, genre le manoir à Souston. Voilà, c'est un vrai studio qui a du matos de malade, de tout ça. Nous, c'est pas notre vocation.
À Lyon,
exactement. C'est un très très bel endroit, un outil absolument exceptionnel. On est parfait pour faire de la démo. On est parfait pour faire de la pré-prod ou des enregistrements live ou alors des enregistrements professionnels, mais de choses très simples. Voilà. Après, certains me diront, mais oui, après tout, avec ce que vous avez comme matos, les hommes exceptionnels, ils n'avaient pas plus que vous, ce qui n'est pas faux. Mais aujourd'hui, la prod, elle a quand même évolué, donc on n'est plus exactement sur les mêmes systèmes d'enregistrement. Et, ouais. On a encore un enregistreur à cassette, 4 pistes, voilà, qui fonctionne très bien, qu'on aime beaucoup utiliser, mais qui est quand même très typé, quoi. Donc voilà, et puis tout ça s'inscrit dans effectivement le tiers-lieu plus large qui est container et qui est un complexe de pour les créateurs, quoi. Donc il y a un coworking, il y a un espace de travail qui est dédié aux artistes qui viennent du spectacle vivant, de la musique, voilà, d'univers très différent et qui est aussi ouvert aux entrepreneurs, aux associations qui veulent développer des projets, quoi.
Ok, bon, ça fait pas mal de choses tout ça.
Ouais, ça fait beaucoup d'activités.
Ok, bah écoute, avant de se quitter sur un troisième morceau que je citais tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer là dans les temps prochains pour le groupe ?
On est en train de préparer les dates pour 2023. Voilà, parce que là on a fait les dates de sortie de l'album qui se sont très bien passées. L'album a un bel écho, donc ça c'est très cool. Et ben maintenant il va falloir aller sur la route pour le jouer. Ça, je suis ravi de ça. Et puis on est tous les trois très ravis de pouvoir enfin aller jouer. Et donc là il y a des dates qui vont être annoncées là très vite. Ce qui est bien, enfin voilà, il va y avoir forcément des dates en Angleterre. On a les dates en Espagne qui commencent à tomber. Et puis bien sûr les dates en France qui vont arriver au fur et à mesure.
Ok.
Donc on est content de pouvoir aller jouer.
Mais tant mieux, je me doute bien. Où est-ce qu'on peut le trouver pour les gens qui sont pas soit à côté de chez vous, enfin pas dans les Landes forcément, quoi.
Directement sur le Bandcamp de À ton rêver du roi, si on veut le vinyle.
D'accord.
Si on habite en Angleterre, c'est sur le Bandcamp de Brutalist Records. Et si on veut la version numérique ou en CD. On peut passer par l'un de ces deux ou directement sur le Bandcamp de Distruit Destroyer.
Ok, bah, écoute, il me reste à te remercier. On va suivre l'affaire. Donc on se quitte sur I Love You By The Way. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup.
Ouais, merci à toi.
Salut.
Bonne soirée. Ciao. Ciao.
plots. There's no plots.
Broke my hands, broke my legs.
Courgain à l'instant, les Palois avec Ofcara Sunflowers, je m'en rappelle plus exactement, mais il me semble que c'était sorti chez A Temps Rêver du Roi. Et justement, ça tombe bien puisque Pierre-Johan en parlait à l'instant, membre donc de This Will Destroy Your Ears. Je vous invite à découvrir ce groupe donc via les billets qu'il vous a donné tout à l'heure. Voilà, c'est un excellent disque, un univers très, très particulier, très typé. Mais ça vaut largement, très largement le déplacement. Et puis en plus, ils sont dans le sud des Landes, donc ça n'enlève absolument aucun plaisir, bien au contraire. Voilà, on va se quitter sur Sissik, formation belge. Hieronymus Inferno, c'est le titre du morceau que l'on va s'écouter. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à samedi 23h pour la playlist Electric Troubles. Et puis pour une autre interview la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, je ne sais pas encore quel groupe, mais sachez que la semaine encore après, donc le 21 décembre, ce sera juste avant la période de vacances et de playlist d'Electric Troubles. Il y aura une interview, donc celle de Go Public, la formation qui compte en son sein Hugo de Parkinson Square, il y a Thibaut de Not Scientist, etc, etc, Salim de Sixpack, il y a Varou de Condense, et voilà, donc plein de beau monde, et nous ce sera avec Salim au téléphone. Voilà, donc je vous invite à, donc comme je disais tout à l'heure, faire un petit tour sur les bandcamps d'A Temps Rêver du Roi et d'autres labels, Brutalist Records, etc, et puis tout ce qui concerne This Will Destroy Your Ears. C'était une très bonne interview, merci Pierre-Johan, ciao, bye bye, Sissik, à la semaine prochaine.